Pour moi, c'est ça, en fait, la création sonore. Et je suis hyper heureux quand des personnes viennent chez nous qui s'intéressent à la radio et qui se voient, en fait, se poser autour d'un micro et poser des questions aux autres et qu'on les forme, nous. Et au début, elles sont un peu étonnées qu'on ne les fasse jamais rentrer dans un studio, qu'on leur montre jamais comment utiliser une table et des micros posés sur une table. Et en fait, à la fin, ça disparaît complètement, en fait. Elles se rendent compte que c'est pas ça, en fait, la radio. La radio, c'est ça et plein d'autres choses. Et on n'a jamais eu personne qui nous a dit « Mais j'aurais bien voulu apprendre à utiliser un studio avec des micros posés. » Parce qu'en fait, elles se rendent compte que ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de raconter. Et la manière dont on va le raconter, ça peut être plein de choses différentes. Et poser des micros dans un studio ou tenir un micro à la main pendant qu'on pose des questions, ça revient exactement au même, en fait. Et le résultat est souvent très, très, très proche.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Transmission est une école de radio libre dédiée à la création sonore qui a vu le jour en 2018. Cette école est également un collectif et un lieu partagé. Ce lieu, c'est la cassette, un espace associatif donc dédié au son, à la radio et à la création sonore basé à Aubervilliers. Ziad Malouf a fait une grande partie de sa carrière à RFI, en tant que reporter radio. Il a aussi animé l'émission que vous connaissez peut-être, l'Atelier des médias, jusqu'en 2018. Puis, Transmission s'impose à lui, et il cofondera ce collectif avec quatre amis. Muriel Caes, elle, a rejoint la seconde promotion de Transmission en tant qu'élève. Puis, elle est devenue membre très active du collectif pour continuer justement la transmission. Elle le dit elle-même, elle est la doyenne de l'association. Et elle s'amuse d'aller un peu à contre-courant du portrait un peu stéréotypé que l'on a des podcasteurs. Tous les deux sont mes invités aujourd'hui. Ils me présentent cette école, ce collectif et ce lieu de transmission dédié à la création sonore. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast.
Alors, je m'appelle Muriel KS, je suis sur les réseaux et dans ma signature de podcast. Je suis donc entrée par l'école de transmission, donc la promo 2, c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme c'est possible pour tous les membres de transmission, eh bien, quand on a fini l'école, on peut évidemment avoir envie d'intégrer le collectif pour continuer la transmission, c'est-à-dire essayer de redonner ce qu'on a reçu et participer à cette aventure qui s'est en plus concrétisée par l'ouverture du lieu qui s'appelle La Cassette. Donc, je suis aussi un petit peu la doyenne de cette association. Je suis dans une tranche d'âge qui n'est pas forcément celle de la majorité des podcasteurs et podcasteuses, mais qui est peut-être la tranche d'âge de gens qui écoutent beaucoup aussi de podcasts. Et du coup, je cultive aussi un petit peu cette différence en faisant un travail plutôt sur la notion de mémoire et de transmission, justement.
Et moi, je suis Ziad Malouf. Je suis journaliste radio de carrière. J'ai commencé en 2001 à Radio France Internationale, où j'étais reporter pendant pas mal d'années, également un peu à Radio France. Ensuite, j'ai co-animé une émission de voyage sur RFI et j'ai animé une émission de produit, une émission sur les médias qui s'appelle l'Atelier des médias. J'ai co-fondé Transmission fin 2017, début 2018, avec quatre autres copines, copains. Et j'ai quitté mon métier, mon gagne-pain d'origine à Radio France Internationale en 2018, à la fin de l'année en fait, où on a lancé Transmission. Et voilà, maintenant donc, je suis un des formateurs, un des membres actifs du collectif. Je participe beaucoup à sa vie, son animation, aux côtés de Muriel, aux côtés d'autres personnes. On est assez nombreuses, assez nombreux, avec des personnes qui s'impliquent à géométrie variable, mais je dirais qu'on est une vingtaine, une trentaine de personnes plus ou moins impliquées dans le projet. Et je suis en ce moment même à La Cassette, le lieu qu'on a créé à Aubervilliers, qui est géré par Rayoub au quotidien. Et je suis souvent là avec lui pour l'assister, pour l'aider, pour voir le lieu naître et vivre. Voilà.
J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur la genèse de Transmission. J'ai cru comprendre, alors Ziane, tu me corrigeras si je dis des bêtises, donc tu le disais en 2017, que c'est né en fait un peu dans ta tête à la suite d'une masterclass de journaliste à qui tu transmettais en fait un peu des bonnes pratiques sur la création sonore, et tu trouvais en fait que les formations qui existaient étaient un peu soit trop... journalistique, soit en tout cas pas tant que ça en fait, vraiment sur la création sonore et plus sur...
Ouais, en fait c'est vraiment né d'un faisceau de choses, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais donc un soir à la Street School, qui était une école de journalisme libre, gratuite, pour des personnes d'horizons divers, mais particulièrement pour des personnes plutôt défavorisées, des jeunes. Et c'était la énième fois dans ma vie que je parlais de mon métier. J'ai noté immédiatement une différence qui était quelque chose qu'on aurait pu imaginer, mais qu'on ne voyait pas forcément arriver. C'est que d'habitude, quand je demandais aux personnes, donc aux aspirants journalistes qui souhaitaient devenir faire de la radio ou travailler dans la radio, en général, il y avait quelques mains qui se levaient, parfois même une sur 20, deux sur 20. Et là, en fait, ce soir-là, c'était la moitié des personnes, au moins la moitié des personnes. Et ça, c'était une vraie nouveauté. C'était lié à l'engouement pour le podcast, en fait. Et au fur et à mesure de la conversation, donc j'ai partagé comment moi j'avais appris à faire de la radio. Je continue à apprendre, hein, mais j'ai partagé ce que j'avais appris à ce moment-là et comment je l'avais appris. Et les personnes m'ont interrogé sur la manière dont elles pourraient accéder à ce savoir. Et je leur ai dit, mais en vrai, il existe assez peu de choses accessibles, en fait. Il existe les écoles de journalisme, mais par mon métier, j'avais beaucoup travaillé sur la manière dont les écoles de journalisme formaient à la radio. Et en fait, elles formaient, sauf exception, assez peu, assez mal. Il y avait plutôt un dédain pour l'outil. C'était vraiment le journalisme avant tout et le média, on fait ce qu'on peut avec. L'idée, c'est d'être efficace, savoir faire des journaux, savoir présenter. À part ça, il y avait une formation universitaire en France qui est le Créadoc, qui est excellente, mais qui est très peu accessible et qui a la particularité de faire 2 ans, une année uniquement en son et une année en image et son, donc une année vers l'image. Ce que je trouvais bizarre à l'époque, personnellement, mais j'ai appris à apprécier cette idée par la suite, parce que c'est très intéressant de travailler sur différentes manières de raconter le réel. Et il y a des formations plus ou moins professionnelles, portées par des associations extraordinaires comme Phonurgia, d'autres en Belgique. Beaucoup de Français allaient se former en Belgique avec la CSR à l'époque. Mais globalement, à part la CSR, tout était assez inaccessible. Et les formations de curiosité, comme on peut se former à la peinture, à la guitare, à plein de choses, en fait, n'existaient pas, ou elles étaient vraiment très chères pour les jeunes qu'on avait en face de nous. Et donc, à ce moment-là, je leur ai dit, un peu sous forme de boutade, vous savez quoi, on va créer l'école. Et en fait, j'ai reparlé à Thibaut, qui était un des animateurs de cette Street School, quelques jours après. Je lui ai dit, tu sais, en fait, j'ai proposé ça aux élèves. Et il m'a dit, allons-y, faisons-le. Lui, il voulait quitter la Street School, donc il a... Lui, son expertise, c'était vraiment l'administratif. Donc, il a mis en place le cadre administratif. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'on naisse. Et on s'est lancé. Après, ça, c'est vraiment l'événement. Mais ce dont je m'étais vraiment rendu compte, et je vais essayer d'être bref pour ne pas monopoliser la parole, mais c'est que moi, j'étais depuis pas mal d'années vraiment complètement scotché par la manière dont les Américains faisaient de la radio. Pour moi, il n'y a pas de différence entre radio et podcast, en tout cas pas fondamentale dans le médium. J'écoutais plein de podcasts américains depuis très longtemps, et j'étais vraiment intrigué par le décalage de savoir-faire entre les États-Unis et la France. Et ça, je trouvais ça assez navrant même. Il y avait une maîtrise de plus en plus forte de la narration, quoi, aux États-Unis. Peut-être trop, mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant. Je pense à This American Life et à plein d'autres acteurs qui sont nés dans le giron et dans la suite de This American Life. J'ai vu Gimlet se lancer au jour le jour, etc. Et quand je parlais de ça, du fait que j'étais étonné par la qualité de la production aux États-Unis et du savoir-faire en narration et le décalage que je ressentais en France, quand j'en parlais en public, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi, amateurs de podcasts anglophones, qui étaient tellement d'accord avec moi et qui me disaient « mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que les gens ne s'en rendent pas compte autour de moi ». Et je me suis dit que créer un outil comme Transmission, une sorte d'école, ça serait aussi une manière de faire venir ces gens-là à la radio, en fait, de ne pas attendre que la radio traditionnelle leur ouvre la voie pour se former, pour apprendre. Et donc, c'est aussi vraiment issu de ça, quoi, l'idée qu'il y a quelque chose à imaginer, à faire dans le développement du savoir-faire en narration dans l'univers francophone.
Et est-ce que, justement, il y a des exemples d'écoles de ce genre aux États-Unis ?
Il y a Transom, qui est vraiment une mine pour apprendre, qui est dans son modèle d'initiation, de formation, est quand même un peu trop inaccessible, je trouve. Enfin, en tout cas, à l'époque où je regardais, les prix étaient vraiment trop chers. Mais je pense que c'est un peu dans le même esprit. Et il y a des dizaines de choses qui sont nées, en fait, dans le giron de This American Life et de plusieurs autres acteurs et de Transom. À l'époque, après, il y a eu plein d'initiatives, d'initiations, de formations. Et quand on regarde les contenus partagés par Transom ou par les festivals dédiés à la radio aux États-Unis, on voit à quel point, en fait, le savoir-faire en écriture est élaboré et il est très, très maîtrisé. Peut-être trop, hein. Maintenant, j'en reviens un petit peu. Et puis l'évolution des dernières années dans l'univers du podcast ne m'intéresse pas du tout et m'éloigne plus de cet univers qu'autre chose. Donc, j'ai l'impression d'avoir connu un peu l'âge d'or où le savoir-faire des grands Américains comme Ira Glass et son équipe et tous ceux qui l'ont suivi étaient arrivés à son apogée. Et c'était encore quelque chose d'un peu confidentiel. Et maintenant, ce que c'est devenu m'intéresse plus du tout, en tout cas dans ce qu'ils dégagent et dans leur manière de d'interagir avec l'argent notamment.
J'aimerais bien revenir sur un truc et Muriel, tu pourras nous en dire aussi quelques mots. Transom, c'est d'ailleurs un point commun que vous avez avec Transmission. Il y a un gros processus de sélection aussi, tout simplement parce qu'on ne peut pas accueillir forcément 1000 personnes tous les mois. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la démarche en fait, pour Transmission, comment ça se passe? Et peut-être que Muriel, tu pourras nous raconter comment ça s'est passé de l'intérieur.
Alors, effectivement, c'est devenu une difficulté au départ. Ça a peut-être été une difficulté dès la première promotion, mais en tous les cas, à la troisième promotion pour laquelle j'ai participé à la sélection, il y avait de mémoire près de 400 candidats. Et nous avions décidé, normalement, une promotion de transmission, c'était 25 personnes. Donc, autant dire la difficulté de sélection. Alors, on a pratiqué de la façon suivante. En fait, on a fait un petit questionnaire auprès des personnes pour leur demander ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient faire, pourquoi ils avaient envie de faire cette école et s'ils avaient un projet. Alors, ce n'était pas tant pour évaluer la qualité du projet, parce qu'on ne considère pas du tout que les gens qui rentrent sont engagés par le projet qu'ils nous décrivent. C'était simplement pour voir comment ils se projettent en fait dans la réalisation effective d'un podcast, d'un son, d'un documentaire sonore. Donc, ce questionnaire, c'était plutôt pour voir finalement comment l'accès à cette école pouvait participer en fait à leur parcours, à la façon dont ils se projettent. Voilà. Donc, premier temps, un questionnaire en ligne. Deuxième temps, donc un entretien avec un jury. Alors, tout ça est extrêmement collectif, c'est-à-dire les questionnaires ont été regardés, étudiés pendant l'été, puisque à chaque fois, je crois que les candidatures étaient avant l'été. Donc, les questionnaires étaient regardés pendant l'été. Et les rencontres avec le jury étaient à la rentrée. Donc, il y a plus d'une douzaine de personnes, je pense, à chaque fois qui étudiaient les questionnaires. Et en tous les cas, au jury auquel moi j'ai participé, on était 9 jurys différents de 2 ou 3 personnes à chaque fois. Et on a vu 18 personnes sur 2 jours, chaque jury. Donc, on a vu au total 120 personnes qu'on a rencontrées, qu'on a essayé de mieux comprendre, dans lesquelles on a essayé de voir. Un point qui nous est très important pour nous, c'est qu'est-ce que les gens attendaient en fait, de transmission, en quoi ils avaient envie en fait, de faire cette école, mais aussi qu'est-ce qu'ils imaginaient apporter. Parce que le principe de transmission, c'est pendant l'école et éventuellement après, mais en tous les cas, même pendant l'école, vraiment que ce soit une promotion et que ce soit une pratique de groupe. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des expériences, pas forcément dans la radio d'ailleurs, hein, mais des expériences diverses suivant leur origine, suivant leurs pratiques, etc., ou leurs envies. Et on avait envie de savoir aussi ce qu'ils pouvaient apporter. Alors, on a eu un peu de tout. Hein. Enfin, je veux dire, je donne des exemples, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont journalistes comme Ziad ou certains autres fondateurs comme Sarah ou Thibaut. Mais il y a des gens qui étaient comédiens, il y a des gens qui étaient musiciens. Alors moi, je ne suis pas du tout dans cette pratique, mais j'ai apporté sûrement d'autres choses. Chacun envisage d'apporter quelque chose. Et ça, je dirais que dans la troisième promotion, on a beaucoup insisté sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect collectif. Et heureusement, en fait, on a insisté beaucoup sur l'aspect collectif et l'engagement. Et ça nous paraissait important parce que transmission, c'est une école qui s'étale sur plusieurs mois. Donc, ça demande une certaine volonté, ténacité. Ce n'est pas comme une inscription, je dirais, à un stage de 3-4 jours. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans un projet. Et heureusement qu'on a fait ça parce que ça nous a permis de surmonter efficacement les deux confinements. Puisque quand même la troisième promotion a été percutée par ça, et c'est probablement une des... Alors, à l'issue de la troisième sélection, on a fait deux groupes, en fait, de 25, parce qu'on n'a pas vraiment réussi à en sélectionner que 25. Donc, on a fait deux groupes de 25, et ces deux groupes, en fait, sont probablement les plus collectifs qu'on ait eu depuis le début, c'est-à-dire qu'ils ont mené des projets ensemble, ils se sont vraiment emparés du programme, de l'organisation, etc., même si tout ça se faisait en visio. Et finalement, je pense que le fait d'avoir mis le critère engagement et jouer collectif était vraiment important dans cette sélection. À côté de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de critères de faisabilité, par exemple économique ou de précision du projet. On n'a pas besoin d'avoir un projet très élaboré pour venir forcément à transmission. On n'a pas besoin non plus d'avoir une pratique forcément déjà du son. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai, c'est des gens qui ont envie de se saisir de cet outil pour raconter des histoires, pour raconter le monde, raconter eux-mêmes, écrire des histoires fictionnelles. En tous les cas, c'est ce qu'on a envie de leur... là-dessus, qu'on a envie de les accompagner. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des choses, mais il s'agit d'être accompagné, vraiment.
Je voudrais ajouter, Muriel, elle a tout dit hein, sur le passé. Je parle du passé parce que pour l'instant, on n'a pas encore relancé le modèle école, comme Muriel l'a décrit. On n'a pas encore refait d'appel à candidature pour un cursus long. On n'est pas sûr du tout de le refaire dans cette forme-là. La tendance aujourd'hui est plutôt d'attendre, en tout cas encore un an au moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, on fait des stages courts qu'on a envie de développer vers... probablement des ateliers d'écriture, qui est un type de travail qu'on a expérimenté avec l'école, justement, avec un des groupes de l'école pendant les deux dernières années. Et on a le sentiment que, globalement, on peut jouer un rôle positif, peut-être plus ouvert, sans trop de discrimination, parce qu'on fait en sorte que notre offre soit accessible vraiment au plus grand nombre, que personne ne soit exclu en fonction de ses revenus. Pour l'instant, on est vraiment en train d'expérimenter une articulation de transmission de savoir-faire autour de stages où on arrive à concentrer les personnes pendant quelques jours sur de la création. Et on réfléchit maintenant à une autre étape où peut-être qu'on recréerait un peu des groupes d'écoute, d'entraide de personnes qui pourraient avancer ensemble sur différents projets. Parce que ce qu'on nous dit beaucoup et ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de solitude en fait dans la création et que c'est un facteur très bloquant pour beaucoup de personnes qui sont très motivées, qui ont vraiment le savoir-faire, qui ont des histoires à raconter, mais qui n'arrivent pas à le faire seules. Donc peut-être recréer du groupe avec différentes modalités en fonction des profils des personnes, soit des groupes d'après-midi, soit des groupes de soir, soit des groupes de week-end, du matin, enfin tout est possible. Et on veut tester ça avant de réfléchir à la suite de l'école. À notre sens, en tout cas à mon sens, il manque vraiment crucialement d'outils de transmission dans le savoir-faire en radio. Et il y a la place pour une école de radio, mais certainement pas l'offre qu'on a faite jusqu'à maintenant, peut-être quelque chose qui serait plus de l'ordre d'une école, comme une école de photo ou quelque chose comme ça. Et les stages qu'on propose aujourd'hui, on a le sentiment, mais c'est ceux qui travaillent sur ces stages-là, que ça ne crée pas du collectif, contrairement à ce que faisait l'école avant. Mais rien ne nous empêche de créer du collectif différemment. Mais ça transmet vraiment énormément à plus de personnes, sans discrimination, sans le hasard ou l'injustice aussi des dossiers en ligne, qui, moi, m'a toujours un peu posé problème. C'est très aléatoire, en fait, les notes qu'on va donner à une personne en ligne. Et je trouve ça assez... moi, ça me met mal à l'aise. Et donc, voilà, on est en train d'expérimenter d'autres formes. On n'est pas nombreux à considérer que l'école est encore active dans la forme des stages, des choses qu'on propose. Mais pour moi, c'est très clair qu'il ait participé à l'école depuis le début et qui participe activement à la version qu'on propose en ce moment. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de transmettre du savoir-faire, de le diffuser. Et on voit petit à petit les gens s'en emparer. Et c'est super intéressant à observer, quoi.
Donc du coup, il n'y a plus de sélection sur les ateliers là, que vous proposez, les mini-stages. Vous en proposez tous les mois, beaucoup d'ailleurs, autant aux enfants qu'aux adultes, aux ados aussi. Moi, si j'étais à Paris, je serais ravie de retourner.
Pour l'instant, il n'y a plus de sélection. En tout cas, si ce n'est par l'argent un petit peu. Mais notre expérience, c'est que les tarifs qu'on pratique n'ont pas arrêté des personnes qui sont dans des situations les plus complexes en France. Donc, des personnes qui vivent avec les minima sociaux se sont inscrites parce que nous avons une offre pour ces personnes-là et des tarifs pour ces personnes-là. Donc, on a l'impression que ça n'est pas excluant, mais il n'y a plus de sélection pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que si on lance, par exemple, des ateliers d'écriture et qu'on est victime de notre succès, il faudra sélectionner d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sélection. Et on est, moi, je suis vraiment très, très content. C'est très, très riche ce qui se passe dans ces ateliers. On va certainement diffuser bientôt ce qui est produit par ces personnes, leur première production radiophonique. Et c'est époustouflant, en fait, la qualité de ce que des gens peuvent produire en quelques jours en radio.
Ce que je voulais ajouter, effectivement, par rapport à ça, c'est que pour le moment, dans ce qu'on propose à la cassette, on a effectivement développé des projets différents, des offres différentes sur une semaine, sur une journée, sur une après-midi, pour des publics différents, etc. Donc, ça nous a pris pas mal de temps pour caler un peu tout ça. Mm-hmm. Ce qui manque et qui est en projet pour nous, c'est effectivement ce que Ziad appelle des ateliers d'écriture et que moi j'appelle des accompagnements, c'est-à-dire que ce qui était très fort dans l'école et qu'on souhaite prolonger, c'est effectivement le côté écoute croisée, accompagnement sur un projet, retour et vraiment développement d'un projet. Et ça, on pense que ça pourrait tout à fait se faire par des plus petits collectifs, parce que de toute façon, on ne l'a jamais fait vraiment à 25, hein, on faisait des petits sous-groupes. Donc, c'est un projet comme ça qu'on voudrait formaliser un peu et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Voilà.
Justement, tu parles de la cassette. La cassette est arrivée un peu plus tard que la création de transmission, il me semble. C'est un lieu hyper particulier. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me décrire qu'est-ce que c'est que la cassette, en fait ? Quel est ce lieu ?
En fait, c'est né de deux choses. D'abord, quand on a commencé l'école, on a souhaité ne pas avoir de lieu parce que c'était une contrainte et on se rendait compte que comme on était en mode cours du soir, en fait, il y a des milliers de lieux disponibles le soir, le week-end. Ouais. Il suffit de se baisser pour les prendre. Enfin, c'est vraiment, il y a que ça, en fait. Mais on était un petit peu frustrés parce que dans les lieux où on nous accueillait, il fallait toujours partir dardard à la fin. Alors qu'on s'est quand même très, très vite rendu compte que la principale force d'un projet comme le nôtre, c'est de faire se rencontrer des gens et les mettre ensemble. Donc, on était un peu frustrés par ça et on s'est dit que ça serait bien qu'un jour, on ait un lieu où on peut traîner. Et deuxième chose, en fait, la ville d'Aubervilliers, où on avait décidé, certaines d'entre nous, dont moi, habitons dans cette ville, mais c'était aussi un choix un peu politique de ne pas être à Paris, mais d'être dans la ville la plus pauvre de la petite ceinture parisienne. La ville d'Aubervilliers, où on avait décidé de s'installer, a fait un appel à projet pour occuper temporairement un lieu. Et donc, on a imaginé avec Sarah, à l'époque, on était tous les deux en été, en une journée, on a imaginé un projet qu'on a formalisé ensuite par écrit, relu. où on se disait, voilà, on voudrait un lieu qui soit pour l'école, mais comme l'école se réunit une semaine sur deux et quelques week-ends, il faudrait quand même que le lieu ait une autre utilité. Donc, dans ce lieu, on aurait des studios, et puis un café, et puis on pourrait faire des écoutes, et puis on pourrait faire de la radio en public, en studio et en public, ce qui était quelque chose d'assez rare. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Souvent, la radio en public n'est pas en studio, donc elle a une acoustique qui n'est pas radiophonique, en fait. Et donc, on a imaginé ce lieu et on a gagné l'appel à projet. Donc, c'était un projet un peu utopique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour des lieux autour de la radio. Il n'y a pas vraiment de demande pour des studios en accès libre radiophonique. Mais en fait, on se rend compte que petit à petit, les gens qui le découvrent sont charmés, intrigués, intéressés. Et puis que c'est quand même un lieu de médiation culturelle, en fait, autour de notre art créatif ou autour de notre artisanat qui fonctionne, quoi. C'est, voilà, les gens arrivent et puis ils sont intrigués et puis ils deviennent curieux et puis on se rend compte qu'on plante des graines et c'est parfois vraiment très très rapide, enfin ça pousse très vite. Une fois, on fait de temps en temps, maintenant on fait des ateliers parents-enfants où on profite des enfants pour apprendre aux parents à prendre le son correctement avec un petit zoom et on a commencé ça l'été dernier. Et on avait l'intuition que ça serait intéressant. Et en fait, ça marche très bien. Les parents adorent, les enfants adorent. C'est très intéressant. Et quelques semaines après, une prof, qui était donc une voisine, qui était venue à l'atelier avec ses filles, est revenue. Et elle avait fait pour sa classe de CP à Paris et pour les autres classes de son école un programme d'apprentissage de la radio en 18 séances avec la création d'une pièce radiophonique. Et elles sont venues enregistrer avec ses collègues ici parce qu'elle avait suivi juste un atelier d'initiation à la radio avec ses enfants, qu'elle avait eu une révélation sur ce que ça pouvait être cet outil pour elle en tant que prof. Et c'est ce genre de choses que peut susciter un lieu comme celui-là. C'est-à-dire qu'on fait une médiation, on rend les gens, on leur montre concrètement ce qu'on peut faire. Parce que concrètement, quand elles viennent enregistrer, il y a 20 enfants de l'autre côté de la vitre qui courent dans tous les sens et qui hurlent. Et ça ne pose aucun problème pour le résultat final, on ne les entend pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui facilite les choses pour un prof de pouvoir enregistrer avec les 20 élèves qui écoutent en même temps et qui peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent.
Ça, c'est génial. Susciteur de... Est-ce que vous pensez que vous suscitez des vocations ? Muriel, tu ne fais plus que ça maintenant. Enfin, la cassette, les transmissions, c'est ton activité principale, c'est ça ?
La radio et le son, en tous les cas, c'est mon activité principale. C'est pas exclusivement consacré à la cassette et transmission.
Autant pour
moi. Non, mais parce que d'abord, j'ai des projets qui me sont personnels et que je développe avec le soutien et l'aide de la cassette, mais c'est quand même des projets que je porte. Et puis que je fais partie aussi de l'équipe d'une émission qui s'appelle Récréation sonore, pour rester dans la création sonore, et qui est sur Radio Campus Paris. Voilà. Donc oui, on suscite, je pense, des vocations. Alors, des vocations pour des gens qui ont la curiosité de pousser la porte de la cassette pour venir effectivement à un atelier ou un stage et qui savent un petit peu, qui ont envie en tous les cas de pratiquer l'audio, le sonore, la radio, le podcast, quel que soit le nom qu'on met derrière, mais aussi pour des tas d'autres gens qui poussent la porte de la cassette simplement par curiosité, en voisin, ou pour des gens qui sont parfois dans des contextes un peu compliqués et pour qui le fait de prendre la parole, de pouvoir être écouté, s'écouter soi-même, poser sa voix, y compris parler dans sa langue maternelle pour, par exemple, des groupes de demandeurs d'asile qu'on a pu accueillir récemment. Là aussi, je pense qu'on suscite, je ne sais pas, des vocations, mais en tous les cas, le fait de toucher que le son, parler dans un micro, en fait, c'est un moment vraiment important. C'est un moment où on est sûr que ce qu'on est en train de dire va être écouté. Enfin, et je pense que ça touche beaucoup de gens, effectivement, et que le fait qu'il y ait un lieu qui incarne ça, ça a vraiment beaucoup d'importance, même pour des gens qui, a priori, ne seraient pas intéressés par eux-mêmes à pratiquer la radio ou le podcast.
Et moi, je voudrais ajouter qu'on ne s'est pas simplement suscité. En fait, jusqu'à maintenant, l'essentiel de notre proposition s'adresse aux passionnés en fait, de radio. L'essentiel de notre, des personnes qu'on a ciblées, visées, ce sont les passionnés de radio. Ce sont des personnes qui ont déjà une culture radiophonique acquise par l'écoute. Et plus que susciter des vocations, on en a beaucoup sauvé, je dirais. Parce que Il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives dans la radio. Il y a beaucoup de mauvais conseils pour les gens qui commencent. On a failli avoir un exemple. Voilà, une mauvaise prise de son, c'est très, très vite arrivé. C'est même pratiquement la norme des gens qui commencent. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous donne des choses toutes simples sur la proximité, sur des petits conseils tout simples, on passe à côté et on fait des choses qui ne sont pas bien. Et parfois, on en fait même pendant longtemps. On fait des mauvaises prises de son pendant longtemps. Pareil pour le montage, pareil pour le mixage. On peut vraiment mettre le pied à l'étrier de personnes qui ont vraiment le goût, qui ont l'envie, qui ont la motivation, qui ont parfois le temps. Et en quelques jours, en quelques semaines, on peut leur permettre de vivre leur envie. Voilà. Donc, on sauve des vocations parce que si on n'était pas là, y en a beaucoup qui accéderaient à d'autres choses, d'autres types de formations, mais il y en a beaucoup qui n'auraient pas les moyens d'accéder à d'autres choses et qui, du coup, abandonneraient ce rêve. Il y a tellement de gens qui disent « Ah là là, la radio, ça a toujours été un rêve pour moi. » Notre ambition, c'est de dire aux gens « Voilà, là, on peut vous donner les moyens de transformer ce rêve en réalité. Après, vous allez vous confronter à la réalité. » C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas la motivation ou ça vous fait peur. Enfin, il faudra vous dépasser. Mais les peu de barrières faciles à franchir et qui sont quand même très importantes, qui vous empêchent et qui empêchent l'immense majorité des gens de transformer ce rêve en réalité, en fait, nous, on peut les ouvrir facilement.
Je reviens sur cette idée de lieu et d'accessibilité. Du coup, comme vous en parliez, on a aussi évoqué en fait le fait que vous avez dû passer par Zoom, comme à peu près un peu plus de la moitié de la planète pendant les confinements. Est-ce que il y a une volonté de rester absolument en personne tant que légalement c'est possible, ou aussi en fait d'apporter ces outils finalement en ligne? Alors non, je ne dis pas ça juste pour moi, mais je veux dire pour rendre ça finalement pas accessible même hors de Paris, parce qu'on a tendance, on sait que ce n'est pas à Paris, que c'est en banlieue parisienne, mais on a tendance à dire que c'est vrai que le journalisme, tout le monde des médias, c'est surtout en région parisienne. Je ne sais pas si c'est... je sais qu'on ne peut pas non plus être partout, qu'on ne peut pas tout faire, mais je ne sais pas comment vous vous positionnez là-dessus.
Tu n'es pas la première personne à nous interroger dessus. Pendant que tu poses la question, je me dis qu'il y a forcément quelque chose à faire. Ce que nous, on redoute, en fait, et ce que moi, je ne veux absolument plus personnellement, je ne parle pas du tout au nom du collectif, c'est que des personnes qui sont à quelques minutes ou à quelques dizaines de minutes d'un lieu ne se déplacent plus et ne se rencontrent plus parce qu'il y a une proposition alternative en ligne. Et ça, malheureusement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver dans beaucoup de nos réunions ou dans beaucoup de réunions du quotidien. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur et il faut être un peu militant pour le physique. Le travers de ça, c'est qu'il ne faut pas non plus exclure ou obliger des personnes à prendre des avions ou des trains inutilement pour venir nous voir. Mais dans ce cas-là, je pense qu'une solution, ça serait d'avoir par moment une offre réservée aux personnes qui sont loin. Voilà. Et on ferait un groupe de personnes qui sont loin et on n'admettrait pas les personnes qui ne sont pas loin ou qui ont la capacité de venir facilement en quelques minutes là où on se trouve. Et ça réglerait les deux problèmes, quoi. À la fois, ça ne serait pas discriminant pour les personnes qui sont loin et ça ne serait pas déshumanisant pour les personnes qui sont physiquement en train de mener les choses. Il faudrait qu'on le fasse, en fait. T'es pas du tout la première personne qui nous le dit. Il y a beaucoup de gens qui vivent au fin fond de la France, qui n'ont pas les moyens de se déplacer sur plusieurs jours et avec lesquels on pourrait tout à fait interagir dans des petits groupes aussi, de manière intéressante. Et l'autre possibilité aussi, c'est qu'on se déplace dans le monde ou en France. Hein. C'est aussi une chose qui pourrait arriver dans le temps. Nous, on est très ouverts, en tout cas, à se faire copier et à ce que des gens à qui on transmettent à leur tour, en essayant de respecter un peu l'esprit de ce qu'on fait, quoi, au maximum.
Effectivement, on est même pendant l'école, on était très attentif au fait qu'il n'y ait pas que des gens de Paris. Hein. On a d'ailleurs intégré des gens de région, des gens de Suisse, des gens du Maroc. On était attentif à ça. Ce qui nous est apparu important, c'est qu'il y ait des moments de rencontre, c'est-à-dire qu'on pense que quand on peut, en tous les cas, c'est quand même bien de se voir une fois, de partager vraiment des moments au-delà des cours. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, dans la promo 3, là, la dernière, il y avait pas mal de gens donc de région. Comme la promo 3, à cause du confinement, a été rallongée, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de Zoom. Peut-être qu'on a transmis en fait, beaucoup de... de contenu, hein, d'apprentissage, entre guillemets, en Zoom. Après, l'accompagnement des projets, ça peut aussi assez facilement se faire comme ça. Après, il y a des choses qui ne se transmettent pas, je dirais, par Zoom. Hein. C'est l'envie de pratiquer ensemble, l'envie de faire des projets ensemble. C'est l'émulation des différents projets. Et pour ça, on pense... Pour nous, que c'est important de se rencontrer un peu. Et je voulais témoigner de ça parce que, par exemple, la dernière promo, qui justement a fait beaucoup de Zoom, à l'initiative en fait, des élèves, entre guillemets, il y a eu l'été dernier deux résidences d'été où on a loué un endroit à une quinzaine dans un cas, enfin une quinzaine d'ailleurs, deux groupes d'une quinzaine, à deux endroits différents, une au mois de juillet et une au mois d'août. Et c'était vraiment les élèves qui avaient envie de se voir, d'être ensemble, de faire des trucs ensemble. Et enfin, je dis les élèves, mais moi, j'y suis allée. Hein, mais c'était vraiment leur initiative. Et d'ailleurs, on a partagé dans l'un des groupes, par exemple, la réalisation d'un spectacle radiophonique, donc qui supposait là vraiment qu'on soit physiquement ensemble. Et voilà, si on réfléchit à ça... je pense qu'on complétera, parce que c'est un peu dans notre façon d'être, on complétera peut-être des cours en Zoom avec des rencontres physiques où c'est important aussi de se voir, de se rencontrer. Et après, on peut plus facilement, je pense, après être en Zoom assez longtemps avec des gens qu'on a quand même
déjà
côtoyés.
Vu, avec qui on a déjà collaboré.
Voilà.
T'en as parlé un tout petit peu au début, Ziad, de l'économie du podcast qui ne te faisait pas forcément rêver. Je t'ai entendu, je crois que c'était une masterclass de l'été du podcast où tu disais que l'économie du podcast, selon toi, pas forcément tort, ne contribue pas à un monde meilleur car elle dépend notamment de la pub, ce qui est aussi un peu le cas de la presse, en tout cas de beaucoup de titres de presse. Est-ce que, cette interview, cette masterclass date d'il y a quelques années? Où est-ce que tu en es, en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Et Muriel, je suis aussi intéressée de savoir un peu ce que tu en penses.
Je n'ai pas tellement changé d'avis. En fait, je ne me positionne pas du tout comme un donneur de leçons. Hein. Moi, j'ai été journaliste pendant longtemps et j'ai beaucoup fonctionné dans l'univers du journalisme avec ses travers. Et petit à petit, j'ai appris à comprendre en fait, la gravité des travers du journalisme. Qui ne sont pas du tout de la malhonnêteté. Enfin, il y a évidemment de la malhonnêteté, mais ce n'est pas ça dont je parle. Le problème dont je parle, c'est la dépendance des entités journalistiques d'acteurs qui ont des intérêts divergents, en fait, avec les cibles du journalisme. Je m'explique. Donc, c'est le fait de dépendre, donc, on va l'appeler publicité, mais de toutes sortes de sources de revenus alternatives et de fragiliser le rôle du journalisme, le rôle de l'observateur. Revenons à la définition plus qu'à la fonction du journalisme, plus qu'au métier. Tous les observateurs du réel ont un devoir de sérieux, ont un devoir d'honnêteté, ont une indépendance implicite ou en tout cas doivent être le plus indépendant possible des choses dont ils ou elles parlent. Et le problème des modèles économiques de la presse d'antan et de encore beaucoup de journaux, c'est de malheureusement être trop dépendant d'acteurs, de publicités, de sponsors, de choses comme ça pour se financer. Et c'est quelque chose de pervers, en fait. Et même si la perversité de ce modèle n'est pas visible au quotidien, elle n'est pas caricaturale, en fait, à terme, c'est quelque chose de vraiment très, très pervers. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas utile socialement et sociétalement. Pour moi, il faut des modèles le plus indépendants possible pour parler du monde. Et la presse l'a bien compris parce que les acteurs qui ont émergé, les acteurs importants qui ont émergé et sur les 5, 10 dernières années, 15 dernières années, et ceux qu'on encense maintenant et ceux qui jouent un véritable rôle dans nos sociétés sont des acteurs en France comme Mediapart. Je ne vais pas citer ceux qui sont aux États-Unis. Eh bien, ces acteurs-là, en fait, ont compris et ont digéré des années d'errance de la presse, de trop de dépendance à différents acteurs. Et je suis un peu navré, j'étais un peu navré de voir que le podcast arrivant, la radio s'émancipant des ondes, était en train de reproduire un modèle qui n'était pas vertueux, qui en fait, pour le dire rapidement, c'est le modèle de Facebook. C'est-à-dire que c'est gratuit parce que nous sommes le produit. Et tout ce qu'on peut reprocher à Facebook, et on trouve ça caricatural, le fait de capitaliser sur nos données, de nous attirer pour nous vendre à d'autres personnes, etc. Eh bien, en fait, la presse fonctionne comme ça depuis toujours. Et il faut que ça s'arrête un jour parce qu'on n'est pas légitime pour parler du monde si on est trop dépendant d'acteurs qui ont des intérêts divergents. Aujourd'hui, ça doit être vraiment très, très compliqué de vivre dans ce secteur. Et on est obligé de passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer de trouver des financements, à faire des choses qui sont moins intéressantes que celles qu'on souhaitait faire à l'origine pour vivre. Donc, y a un vrai enjeu, je pense, pour l'avenir. Ça mettra du temps, mais ça va arriver.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que la particularité de ce qu'on fait du monde dans lequel on intervient, là, et c'est d'ailleurs toute la question quand on dit, on parle de l'audio, de la radio, du podcast, de la création sonore, quand on est obligé de faire cette succession d'appellations différentes, c'est bien parce qu'on est à la fois un média d'information, un média d'expression, et une forme artistique, et qu'on est à la rencontre en fait de différentes choses, et qu'on ne peut pas être dans une économie, uniquement une économie, ou principalement une économie de communication, en fait. Je fais toujours référence à, par exemple, l'émergence de la vidéo par rapport au cinéma. C'est vrai que quand on a eu des moyens de faire plus facilement du film, des images, etc., en termes de communication, tout le monde s'en est emparé, et ça a à la fois généré des possibilités d'expression et à la fois un marché de communication. Là, aujourd'hui, le monde du podcast, en tous les cas, tel que moi je le perçois un petit peu en France, effectivement, c'est quelque chose qui essaye de garder un peu son indépendance tout en cherchant les moyens de vivre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir, et il y a d'autres pays où ils sont amenés à cette réflexion, à un panachage, en fait, entre ce qui est du média, hein, comme la presse, ce qui est de l'artistique comme les livres ou le cinéma, et ce qui est aussi, j'oserais le terme qui fait parfois un peu années 90, mais d'éducation populaire, comme les ateliers d'écriture. Et voilà, je pense que malheureusement, quand on dit podcast, on pense beaucoup à abonnement, publicité, enfin tous ces questionnements-là, alors que ça recouvre en fait un monde économique ou un modèle économique qui peut être à multiples facettes. Voilà. Et qu'on est en train de chercher d'ailleurs, et que manifestement, en tous les cas en France, les autorités et le monde artistique cherchent aussi. Hein,
Pour terminer, il me reste deux trucs que je voudrais aborder avec vous. D'abord, c'est le futur. On parle de transmission au présent, mais la transmission, c'est aussi dans le futur. Qu'est-ce que vous espérez finalement peut-être pour transmission, pour la cassette ? On a évoqué quelques sujets comme ça, là, dans l'heure qui vient de passer, mais je ne sais pas si vous avez des choses particulières que vous voudriez partager.
Oh ben, on a plein de projets, plein de rêves, hein, évidemment. Donc, je parlais tout à l'heure, et moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, de vraiment développer une sorte d'accompagnement, ça fait un peu fermé, mais en tous les cas, de groupes comme ça, de gens qui s'accompagneraient. Alors, moi, j'aime beaucoup le mot compagnon, hein, et puis l'idée de l'apprentissage avec des maîtres d'apprentissage et des apprentis. J'aime bien cette idée et de faire des ateliers autour de ça. Donc ça, c'est pour moi un projet qui me tient beaucoup à cœur. L'autre chose sur laquelle on travaille beaucoup avec SIAD, c'est bien sûr de stabiliser complètement le modèle, parce que ce qu'il faut dire de transmission, c'est qu'on est, on est une jeune pousse, mais on est une jeune pousse associative du monde plutôt des médias et de la culture, on n'est pas dans une case, et ça c'est toujours un petit peu compliqué quand on n'est pas dans une case, et on a connu un développement très fort, parce que finalement, depuis la création de la cassette, ça a multiplié par 10 notre activité, quoi. Et que quand on se développe trop rapidement, parfois ça tangue un peu, c'est parfois un peu difficile, donc il faut qu'on stabilise le modèle, et c'est pour ça, pour le moment, par exemple, L'idée d'une nouvelle promo de l'école est une idée qu'on n'a pas encore mise en œuvre parce qu'on sait bien que c'est très chronophage et que si on fait ça, on ne fera pas d'autre chose. Voilà, donc voilà les deux. Si je devais retenir deux projets, c'est ça, la stabilisation d'une part et puis la mise en œuvre du compagnonnage pour créer.
Bah moi, j'adhère à ces projets-là. Il y a d'autres choses qui nous intéressent beaucoup et qui probablement vont se développer. C'est peut-être la rencontre entre la radio et d'autres formes d'expression, que ce soit la photo, le dessin, les spectacles ou la scène. C'est quelque chose qui nous attire beaucoup et on se rend compte que le lieu qu'on a créé peut être en fait un laboratoire pour ça, à la fois un peu un petit théâtre radiophonique, mais aussi un espace d'exposition. Par exemple, le premier truc qui a été mis en place par le collectif, c'était montrer des travaux qui avaient été faits par les élèves de la troisième promo, qu'on appelle les photos sons, où on mettait donc une photo, on leur donnait une photo, ils devaient imaginer le paysage sonore ou l'univers sonore de cette photo, et on les a transformés en livret, on a exposé ça en fait dans nos cabines, et quand il y a quelqu'un qui nous rend visite, qui a un peu de temps, on lui fait écouter les photos sons, on lui donne le livret, et c'est souvent une expérience intéressante pour les personnes. Il y a des petites choses comme ça, et la scène en fait, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Il y a une partie du collectif qui s'est déjà réunie deux fois, qui va se réunir une troisième fois en mai pour explorer des interactions, des recherches autour de la scène et de la radio. Voilà, ça, c'est un élément. Et puis, quand même, une de nos particularités, hein, c'est que ce qu'on fait produit des choses intéressantes. Et ça, on y tient vraiment. Et donc, on veut vraiment que ça continue à produire des choses intéressantes, que ce soit porté par nous ou par d'autres personnes. Ce que disait, je ne sais pas si je peux le citer, mais il y a Christophe Rau, qui est un des fondateurs d'Arte Radio, qui est venu ici, qui nous a envoyé plein de messages très encourageants, qui est vraiment quelqu'un de très encourageant quoi, pour notre projet, qui, quand il est venu présenter sa fiction sonore, nous a dit « Moi, j'ai écouté ce que font les gens qui passent par vous et tout, vous êtes la radio aujourd'hui. » Bon, évidemment, il exagère, mais en tout cas, ça faisait plaisir à entendre. Et il disait « Voilà, c'est normal, ça tourne. Voilà, il faut que ça tourne, c'est pas... c'est normal que ceux qui ont porté la création, la créativité avant ne soient plus celles et ceux qui la portent aujourd'hui. Ça fait partie du jeu. Et donc, pour moi, le plus important, c'est qu'on continue à faire ça. C'est-à-dire que derrière nous, il y ait d'autres projets qui naissent, qui continuent à porter la créativité, la création, à être ambitieux, à ne pas céder immédiatement aux difficultés de l'argent, des modèles économiques, des choses comme ça, mais qui essayent de trouver des manières de créer et de toucher les gens pour raconter le monde, pour apporter de la diversité, parce que c'est très important d'apporter de la diversité dans les créatrices, dans les créateurs, de la diversité dans les formes, etc. Donc que ça continue comme ça le plus longtemps possible, quel que soit le moyen. Voilà, après, au quotidien, aujourd'hui, clairement, on est en train d'essayer de comprendre un peu tout ce qui est en train d'arriver, de porter un peu les choses pour que on ait au moins le temps de se poser un moment et de pouvoir réfléchir à comment on évolue, parce que ça devient très, très... Enfin, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais pour nous, au quotidien, on a grandi un peu trop vite, quoi.
Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, pour poursuivre ce que disait Ziad, c'est qu'on produit déjà beaucoup de choses, mais qu'on n'est pas... on n'a pas mis jusqu'à présent la production au cœur de ce qu'on met en avant. Enfin, on ne nous connaît pas pour ça. On veut évidemment valoriser tout ce qu'on a produit depuis le début. Et puis, toutes les rencontres qu'on fait, parce que finalement, l'intérêt du lieu, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous rendre visite par curiosité et qui n'auraient pas forcément pris contact sinon, mais c'est que les gens qui viennent voir, en tous les cas, ils ont soif, ils ont envie qu'il y ait une plus grande variété dans les formes. Et je pense que l'émergence, bon, tout ce qui s'est passé dans le podcast, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sujets, beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux publics, donc ça, c'est passionnant. Là où on n'est pas tout à fait, je pense... aussi novateur, c'est sur la forme, c'est sur la liberté par rapport au son, par rapport à la façon d'exprimer des choses en audio. Et je pense qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie possibilité, une marge énorme de liberté. Et je pense qu'il y a là-dessus, on a des acteurs comme nous qui sommes un peu pas dans les cases, ont vraiment un rôle à jouer, comme d'autres. Hein. Il y a d'autres initiatives qui ont lieu en France. Il y en a évidemment beaucoup en Belgique, on le sait. Mais voilà, il y a sûrement des rôles à jouer dans ce sens-là aussi.
Merci.
Avant de vous laisser partir, continuer le cours de vos semaines et de vos journées respectives, j'aime bien demander à toutes les personnes qui passent à mon micro deux, trois recos podcasts. Alors, je ne sais pas si chacun d'entre vous peut me dire quel est déjà le dernier podcast que vous avez écouté.
Moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai vraiment décroché. C'est un peu un de mes drames. En fait, les moments d'écoute ont disparu dans ma vie.
Pratiquement,
parce que, bah ouais. Tu sais, tu as des moments dans la vie où tu fais les choses et si ces moments disparaissent, bah, a priori, tu ne les remplaces pas. Donc, pour l'instant, j'écoute très, très peu de choses. J'ai pris du temps pour écouter les créations de la troisième promo de transmission qui ne sont en fait pas diffusées. Donc, nous, on s'entre-écoute et on se donne des retours avant de diffuser. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à écouter ça. Je n'ai pas encore pu écouter, mais Muriel a fait un projet que je veux absolument écouter sur une manifestation qui avait mal tourné, une manifestation contre la guerre d'Algérie à Paris qui avait mal tourné. Et ça, je veux écouter. Et je suis sûr qu'en réfléchissant un petit peu, je vais trouver quelque chose. On fait des écoutes aussi à la cassette. J'ai écouté la dernière fiction de Christophe Rowe qui est extrêmement bien mixée. Enfin, c'est un vrai bijou en termes de prise de son et d'univers sonore.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Muriel.
La nuit peut tomber à tout moment.
Ouais, très, très bon.
D'accord.
La nuit peut tomber à tout moment.
Et alors, comment s'appelle, toi, le podcast dont Ziad vient de parler ? Le titre qu'on puisse le retrouver ?
Le titre, c'est Sharon, 1962. Il est donc sur mon audioblog qui s'appelle Création de ma troisième vie, au nom de Muriel K.S. Ouais. Et il est aussi sur les créations sonores. Et moi, je dirais justement que... Alors moi, j'écoute pas beaucoup de podcasts au sens flux. Mm-hmm. J'écoute beaucoup de créations. Et j'écoute beaucoup de créations d'une part, parce que j'écoute effectivement aussi les créations des gens de transmission hein, pour leur faire des retours. Et puis d'autre part, parce que j'écoute beaucoup de choses que j'envisage de programmer sur Récréation Sonore, donc sur Radio Campus Paris. Et donc, on a fait aussi récemment une émission avec un créateur dont j'aime beaucoup les œuvres, qui s'appelle Benoît Bory. Et on a diffusé donc sa dernière création qui s'appelle Bouilleur de cru et qui est une promenade, j'allais dire, auprès d'un des derniers bouilleurs de cru, quelqu'un qui a hérité donc de la possibilité de faire de l'alcool et qui est un bouilleur de cru nomade.
J'allais te demander, mais qu'est-ce qu'un bouilleur de cru ?
Alors, un bouilleur de cru, c'est quelqu'un qui fait de l'eau de vie avec des fruits.
D'accord, OK.
Et donc, qui se balade avec ses alambics dans le sud-ouest hein, et qui, c'est vraiment une œuvre que moi, j'aime beaucoup parce que... Benoît Bory a cette capacité à être vraiment dans l'intimité des personnages qui l'accompagnent sur le long terme. Il finit par se rendre presque invisible hein, dans les interactions de ces personnages. Et là, en l'occurrence, le Marc, je crois qu'il s'appelle, le bouilleur de cru, outre d'expliquer ce qu'il fait, etc., il a vraiment un rôle aussi de lien social, j'allais dire, dans ces mondes agricoles, ruraux. Et c'est des paroles qu'on n'entend pas beaucoup, des voix, des accents qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis Benoît est un formidable compositeur. Donc il y a une qualité sonore fabuleuse, quoi. Voilà. Donc, je vous recommande chaudement « Bouilleur de cru » de Benoît Bory.
Eh ben, merci beaucoup. De toute manière, je remets toutes les recommandations que vous m'avez partagées. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Un grand merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Et puis après, je promets, c'est fini. Je vous laisse tranquille.
C'est une question qu'on nous pose souvent quand on dit qu'on s'intéresse à la création sonore. On nous dit, mais qu'est-ce que c'est la création sonore ?
C'est vrai, on n'a pas parlé.
Et c'est vrai que moi, pour expliquer, je dis souvent aux gens que peut-être un travers de la radio, c'est que dès que les gens pensent radio, ils pensent tout de suite un micro posé, interview en studio avec des personnes autour d'une table. Et je dis que le principe de la création sonore, c'est de s'interroger sur la forme après le fond. C'est-à-dire qu'avoir un projet, avoir une histoire, avoir quelque chose à dire, à raconter, et là se demander en fait systématiquement comment je vais le raconter. Comment je vais le raconter radiophoniquement ? Est-ce que la meilleure solution, c'est de réunir des gens autour d'une table ? C'est possible. Est-ce qu'il faut, en plus de réunir les gens autour d'une table, il faut faire d'autres choses, récolter d'autres choses, réfléchir à d'autres choses ? Et pour moi, c'est ça, en fait, la création sonore. Et je suis hyper heureux quand des personnes viennent chez nous qui s'intéresse à la radio et qui se voit en fait se poser autour d'un micro et poser des questions aux autres et qu'on les forme, nous. Et au début, elles sont un peu étonnées qu'on ne les fasse jamais rentrer dans un studio, qu'on leur montre jamais comment utiliser une table et des micros posés sur une table. Et en fait, à la fin, ça disparaît complètement. En fait, elles se rendent compte que c'est pas ça en fait la radio. La radio, c'est ça et plein d'autres choses. Et on n'a jamais eu personne qui nous a dit mais j'aurais bien voulu apprendre à utiliser un studio avec des micros posés, parce qu'en fait elles se rendent compte que ce qui compte c'est ce qu'on a envie de raconter, et la manière dont on va le raconter, ça peut être plein de choses différentes. Et poser des micros dans un studio ou tenir un micro à la main pendant qu'on pose des questions, ça revient exactement au même en fait, et le résultat est souvent très proche. Mais voilà, donc c'est ça qu'on a appris en fait, nous, en côtoyant des gens et en réfléchissant à ce que c'est que la création sonore.
Et bah en voilà une belle définition de la création sonore. Je tiens à adresser un immense merci à Ziad et à Muriel pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que tout ceci vous aura donné envie d'aller faire un tour du côté de Aubervilliers à la Cassette. C'est un lieu que je n'ai pas encore eu le temps de visiter, mais que j'ai vraiment envie en fait, d'aller découvrir lors de mon prochain passage en France. C'est tout pour aujourd'hui. En toute honnêteté, je ne suis pas complètement sûre de quand sortira le prochain épisode. J'ai un documentaire sur le podcast de Marc. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le terminer pour dans 15 jours, de vous à moi. Je déménage à Denver, au cœur du Colorado, donc de l'autre côté du pays, dans quelques semaines. Et c'est un gros chantier chez moi. Donc si je n'arrête pas Génération Podcast, bien entendu, je ne peux vous garantir de la régularité de mes apparitions sur votre flux RSS. En tout cas, je ne vous promets rien, on verra bien, ce sera la surprise. Je vous souhaite un excellent mois de juin, j'ai hâte de vous retrouver, du coup je ne sais pas exactement quand. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recos.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.